voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
L'école dynamique à Paris est un cadre dans lequel les enfants sont auteurs et responsables de leur vie quotidienne au sein d'un collectif. Fondée par Ramin, l'école dynamique s'inspire de l'école Sudbury Valley, fondée en 69 aux États-Unis. Au sein de ce type d'école, les enfants sont libres de déterminer leurs propres objectifs. En connexion avec leur nature et leur aspiration profonde à chaque instant, ils jouent, explorent et pratiquent leur centre d'intérêt. Dans cette première partie de l'émission, Ramin nous présente l'itinéraire qui l'a amené à créer l'école dynamique.
J'ai 32 ans, je viens de devenir papa et j'ai un bébé de 1 mois qui s'appelle Zeya. Et puis depuis tout jeune, mon intérêt c'est l'éducation. Depuis que j'ai 10 ans et que j'ai eu un prof de CM1 qui était particulièrement sincère et authentique avec ses élèves, j'ai commencé à me poser la question de devenir prof et à me poser des questions assez profondes sur l'éducation des enfants. Et donc me voilà aujourd'hui à avoir créé une école et maintenant un village où, où chacun est libre de mener sa vie comme bon lui semble.
Ok, on va reprendre ce déroulé, mais on va y aller un peu plus doucement. Donc tu es à l'école avec déjà ce rêve de devenir enseignant, en tout cas de travailler dans l'enseignement. C'est ce que tu fais tout de suite quand tu sors des études? Parle-moi un peu de ton parcours professionnel. Est-ce que tu as tout de suite commencé l'enseignement ou comment est-ce que c'est venu? Comment ça s'est construit? Comment est-ce que tu l'as mis en place? Et quel est l'axe que tu as choisi pour te lancer dans l'éducation?
Alors à vrai dire, rapidement, cette vocation que j'avais de devenir prof en CM1, ensuite pendant le collège j'ai découvert la préoccupation de l'argent et étant premier de la classe et potentiellement voué à faire une carrière où on gagne beaucoup d'argent, finalement je me suis fait un peu happer par ce, par ce chemin pendant un certain temps, donc une parenthèse qui a quand même duré assez longtemps jusqu'à mes 26 ans où après avoir eu un diplôme de grande école à l'école centrale Paris, j'ai travaillé 3 ans comme consultant pour les grandes entreprises multinationales, notamment Lafarge, EDF. Et puis, au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place et qu'en fait, l'enfant de 10 ans qui admirait son prof de CM1, c'est vraiment lui qui avait vu la voie juste quelque part et qui avait vraiment senti ma vocation. Et du coup, j'ai démissionné, j'ai tout claqué alors que je gagnais 8000 euros par mois. Et j'ai démarré comme prof de maths et de physique au lycée. J'ai fait ça pendant presque 3 ans. Et pendant que j'étais prof, c'est vraiment ça l'expérience qui m'a chamboulé, parce qu'une fois qu'on se retrouve de l'autre côté du rideau et qu'on voit qu'on n'a pas que des petits Ramin premiers de la classe qui s'amusent à l'école et qu'on a en fait majoritairement le contraire de ça, des jeunes assez passifs qui en fait n'ont pas vraiment envie d'être là mais qui le sont quand même. Ça m'a beaucoup fait travailler intérieurement et finalement ça s'est manifesté par une sorte de craquage positif en fait où j'ai confié le pouvoir à mes élèves et un jour je suis venu, je leur ai dit bon, quels que soient les trucs que j'essaye pour amuser la galerie, ça n'a pas l'air de fonctionner, donc faites ce que vous voulez de cette classe, elle est à vous, comment est-ce que vous voulez qu'on bosse, voilà. Et c'était une expérience vraiment formidable en fait, enfin avec mes élèves on a beaucoup appris à travers ça. À la fin en fait la salle de classe était devenue une sorte de forum de forum libre en fait où chacun venait et travaillait à son rythme, ils s'expliquaient le cours les uns les autres, ils faisaient des exercices spontanément, enfin bref ils préparaient leur bac, hein, ils étaient motivés de toute façon pour faire ça et ils se comportaient plus ou moins comme des étudiants de fac mais avant l'heure. Et moi, la plupart du temps, en fait, je ne faisais rien, quoi. Je les regardais faire, je les observais. Bon, j'étais disponible pour répondre à une ou deux questions, mais en fait, ils étaient complètement autonomes. Et le moment où je me suis dit, finalement, ça va pas assez loin, c'est quand je me suis rendu compte à quel point les contraintes du programme et de l'emploi du temps, en fait, bloquaient potentiellement des apprentissages encore plus fluides, quelque part, et un parcours encore plus efficace. C'est là que, j'ai décidé de maintenir. Enfin, j'ai cherché sur Internet s'il y a des gens qui allaient encore plus loin que ça. Et j'ai spontanément cherché éducation démocratique sur Internet, en fait, parce que ce que je faisais dans ma classe m'avait l'air d'être justement une transformation d'une autocratie en une démocratie. C'était vraiment une logique de lâcher du pouvoir pour le répartir. Et j'ai découvert qu'il y avait un mouvement très sérieux et tout ça. Je suis allé à une conférence et à partir de là, je me suis dit, ok, C'est ça ma voie en fait, c'est comme ça que je vois l'éducation et c'est ça que j'ai envie de faire.
Mais donc là, tu as quitté l'éducation nationale.
J'ai quitté ouais, l'équivalent de l'éducation nationale, même si j'étais dans le privé, en fait, ça revient au même. C'était on va dire, le même système, enfin, le monopole qu'on a en tête.
Mais dans le système privé, tu pouvais appliquer, donc tu disais, tu as redonné le pouvoir aux élèves. Donc tu as eu cette liberté de pouvoir le faire.
J'ai eu cette liberté et chaque enseignant est en fait, même de l'éducation nationale, même dans le service public, est complètement libre de faire ça. Je veux dire, on n'a pas une méthode, une pédagogie qui est imposée. S'il y a un prof qui décide tout à coup de se dire, bah, en fait, je pense que c'est plus, ouais, c'est plus efficace et même plus pédagogique de faire ça, il en a la liberté de le faire. Après, bon, bah, s'il tombe sur un inspecteur malveillant et pas ouvert d'esprit, oui, il peut se faire taper sur les doigts, mais en même temps, s'il est vraiment convaincu par son truc, il n'y a personne qui peut l'empêcher de le faire, ça c'est clair.
Et par rapport à tout ce système d'évaluation, comment est-ce que tu t'y es pris? Parce que dans une classe, il faut quand même évaluer ses élèves.
Il y avait purement de l'auto-évaluation, ça veut dire que pour moi, la logique de l'évaluation, c'était vraiment pour eux, pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils en sont dans leur préparation ultimement pour le bac. Et ça n'avait pas trop de sens que moi, je sois un évaluateur qui les sanctionne ou quoi. Enfin, c'est pour eux, finalement. Si ça leur est utile, ils le font. S'ils pensent que ça ne leur est pas utile et que ça n'a pas de sens pour eux, bah, ils peuvent attendre l'évaluation finale qui est le bac, de toute façon. Et voilà. Et oui, ça veut dire que potentiellement, ils auraient pu ne pas du tout être évalués. Vu que toutes les évaluations étaient optionnelles et étaient décidées par eux-mêmes. Et avec l'école dynamique, on est quelque part allé encore plus loin et on a aboli l'évaluation, qui n'est pas une obligation légale, hein, on n'est pas obligé de juger les enfants, de les évaluer, tout ça. Et en même temps, ça revient à faire de l'auto-évaluation parce que finalement, ils vont poursuivre leur centre d'intérêt, ils progressent dans leur centre d'intérêt. Et je donne un exemple bête, mais si quelqu'un s'intéresse au piano, bah, au début, il ne saura pas du tout comment jouer du piano. Et puis, à un moment donné, il se rend compte qu'il sait un peu jouer du piano, puis très bien, puis excellemment. Et voilà. Et y a, quelque part, tu n'as pas besoin d'être noté pour savoir que tu es en train de progresser en piano.
Ouais, tu renverses complètement quelque chose que je pensais être comme établi. Je croyais que l'évaluation était une obligation dans le système scolaire.
En fait, il y a beaucoup moins d'obligations que ce qu'on pense, même cette histoire de voilà, l'école gratuite, laïque, obligatoire. Enfin, c'est un peu une petite musique qu'on a fait tourner depuis un siècle et demi, mais c'est même pas vrai, en fait. Bon, déjà, gratuite, c'est un service public qui est financé par le contribuable, comme les hôpitaux, la police et tout ça, donc dont on ne dit pas qu'elles sont gratuites, donc ça fait juste ajouter de la confusion. Après, obligatoire, bah, c'est pas vrai, en fait, l'école est optionnelle, vraiment. Enfin, il y a une ligne dans la loi qui dit que cette instruction devrait prioritairement être délivrée par des établissements d'enseignement, mais prioritairement, c'est ce que ça veut dire. C'est que le législateur conseille vachement les familles de mettre leurs enfants à l'école, mais ça reste un conseil. Donc l'article, il y a un des articles fondamentaux qui dit quels sont nos droits les plus fondamentaux et qui vient de la Déclaration universelle, qui est un traité international qui dit les droits que tous les citoyens ont dans le monde. Et l'article 26, alinéa 3, dit que les parents ont la priorité pour choisir le type d'éducation à donner à leurs enfants. Donc fondamentalement, l'État n'est pas souverain pour décider quel genre d'éducation ou évaluation à donner aux enfants. C'est la famille qui est souveraine et puis elle décide comment elle veut s'y prendre. Et en France, on a des milliers de familles qui décident de ne jamais évaluer leurs enfants, que les enfants apprennent purement à travers les interactions qu'ils ont spontanément avec le vaste monde. Ça s'appelle les apprentissages autonomes et informels. Des milliers de personnes pratiquent ça et puis les enfants grandissent très bien. Un des exemples les plus spectaculaires du phénomène, bah, c'est André Stern. Mais c'est finalement un exemple parmi d'autres et il y en a beaucoup qui ont été capables d'acquérir toutes les compétences et les facultés, les connaissances dont ils avaient besoin dans leur vie à travers une éducation informelle.
Tu te retrouves face à ta classe et tu choisis de redonner le pouvoir à tes élèves. Pourquoi ? Comment est-ce que tu as mûri cette réflexion ?
C'est pas forcément de la manière la plus positive qui soit. J'étais très frustré en fait. J'avais essayé beaucoup de choses, la classe inversée, les pédagogies un peu.
Classe inversée, définie.
La classe inversée, c'est essayer de prioriser au maximum des temps d'activité en classe et de garder l'équivalent des leçons et du cours magistral complètement à la maison. Ce qui est une super idée parce que ça veut dire qu'on privilégie l'espace de classe comme effectivement un espace de réunion. Qui se justifie parce qu'on a vraiment besoin de se réunir. Le fait de faire un cours magistral alors qu'on peut avoir l'équivalent en vidéo, enfin, c'est assez étrange en fait de continuer à faire ça finalement. Donc j'ai beaucoup aimé cette idée et je l'ai mise en place. Et ça a eu plus ou moins les effets que j'attendais. Enfin, les élèves étaient quand même plus actifs en classe, mais je les sentais quand même toujours hyper dépendants et assez irresponsables finalement, quoi. Ils attendaient que je crée le contexte, que je mette tout en place et je les sentais assez passifs et suiveurs. Et ça m'a profondément touché. Je me suis dit, mais ils ont quoi, 15, 16, 17 ans, enfin, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est plus des bébés. Et à un moment donné, prenez-vous en main, quoi. Et à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que quelque part, en fait, c'est surtout ça, je suis le seul, quelque part, à essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait de l'émulation, pour qu'on avance, pour qu'on apprenne des choses et tout ça, pour qu'on avance sur le programme. Et c'est ces postures, en fait, ce rôle du prof qui organise tout et qui fait tout, et les élèves qui reçoivent. Alors que quelque part, même l'éducation nationale et tous ces discours comme quoi l'élève devrait être acteur de ses apprentissages, bah, ça veut dire quoi en fait le mot acteur? Enfin, on va pas le vider de son sens. Il veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est l'élève qui doit participer à l'organisation de ses propres apprentissages. Et comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Bah oui, c'est quelque part en renversant les rapports habituels. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis assis avec eux et je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on, comment est-ce que vous voulez qu'on organise la classe à partir de maintenant? Et ils avaient des super idées en fait. Et les profs se posent assez peu pour discuter avec leurs élèves de la forme en fait. On parle énormément de contenu, donc ils transmettent toutes les informations et tout ça. Ok, super. Mais est-ce que vous avez pris 2 minutes pour vous poser avec vos élèves et leur demander en fait, est-ce que vous avez des idées sur comment on pourrait organiser ce qu'on vit ensemble?
Et là, ça marche. Donc, les élèves sont force de proposition. Ils sortent de la passivité pour être plus dans l'action.
Un des premiers trucs qu'ils voulaient faire, c'était que eux fassent des présentations en classe. Donc, que à tour de rôle, ils préparent le cours à la maison et qu'ensuite ils viennent le présenter en classe parce que ça leur manquait quelque part. Avec la classe inversée où il n'y avait plus du tout de cours expliqués en classe, il y en a qui disaient qu'ils avaient trop peu de temps en fait pour préparer le cours à la maison. Il y en a plein en fait qui venaient pas du tout préparés. Et ils se disaient, bah, autant si on veut être plus acteur et en même temps que le prof ne soit pas tout le temps en train de faire le cours comme à l'ancienne, bah, l'innovation qu'on propose, c'est ça. Et il y a eu un consensus là-dessus, ils sont tous mis d'accord, ok, bah, à tour de rôle, c'est chaque élève qui va présenter des notions de cours et chacun préparer voilà, une notion de cours qui met à peu près 5 à 10 minutes à présenter. Et ensuite, non seulement du coup, ça s'est transformé en un cours de maths fait par les élèves eux-mêmes, mais en plus, du coup, ils recevaient du feedback non seulement sur les notions et le contenu, si c'était juste ce qu'ils avaient présenté, mais en plus, ils recevaient du feedback sur la forme. Est-ce qu'ils ont suffisamment bien présenté? Est-ce qu'ils ont été suffisamment éloquents? Est-ce qu'ils étaient suffisamment structurés? Et du coup, on apprenait des maths et des compétences qu'on dit soft skills, en fait, d'arriver à s'exprimer face à un public, d'arriver à être clair dans l'expression, d'arriver à être structuré quand on explique quelque chose au tableau. Donc, il y a pas mal d'autres choses qu'ils apprenaient au passage, quoi.
L'année se termine et ensuite.
L'année se termine et c'est là que, en été, je vais à cette conférence sur l'éducation démocratique à Copenhague. Il y avait entre 200 et 300 personnes, principalement des porteurs de projets, des praticiens de l'éducation démocratique, donc qui étaient actifs dans des écoles. Il y avait aussi des élèves d'écoles démocratiques. Et là, je découvre, pour moi, c'était une première fois que je voyais des enfants qui n'avaient pas suivi un programme scolaire. Et du coup, bah, c'était assez renversant pour moi. Enfin, moi, j'avais connu que ça. Et en particulier, je m'en souviens d'un où j'étais assez méfiant. Je me disais, mais attends, mais comment est-ce qu'il peut enfin apprendre les bases, je sais pas, en maths et en sciences et tout ça, qui étaient mes matières, donc je m'y intéressais quand même pas mal. Et finalement, au fil d'une conversation avec lui, il me demande bah, ce que je fais dans la vie. Et je lui dis que je suis prof de physique. Et il me dit, ah ouais, j'adore cette chaîne YouTube qui s'appelle Veritasium. Et puis effectivement, c'est une chaîne que, alors qu'il avait quoi, 12-13 ans, c'est une chaîne YouTube que j'utilisais pour expliquer des notions de cours à mes élèves qui étaient en première terminale. Et du coup, je me suis dit, tiens, il regarde ça, et puis il me montre sa vidéo préférée, enfin, ça se voyait qu'il avait un enthousiasme et une excitation pour la physique que j'avais jamais vue chez des élèves, en fait. Et c'est là que je me suis dit, ouais, ok, je vois le truc, en fait. En fait, ces enfants, ils font ce qui les enthousiasme. Et là, bon, le hasard a fait que cet enfant s'intéressait pas mal aux sciences. Mais en même temps, bah ouais, s'il s'intéresse pas aux sciences, et ben quelque part, peu importe, il sera intéressé à autre chose. Mais s'il s'y intéresse avec ce niveau d'enthousiasme, ça me va en fait. Donc quelque part, peu importe le programme. Et je pense que c'est à ce moment-là particulièrement où je me suis dit au diable le programme en fait, peu importe. Ce qui compte, c'est la dynamique dans laquelle on est. Est-ce qu'on est enthousiaste par rapport à ce qu'on apprend à travers ce qu'on consulte sur Internet et autres, ou avec les conversations qu'on a les uns avec les autres, enfin, dans toutes les interactions qu'on a avec le vaste monde, Finalement, si on laisse l'enfant libre d'apprendre ce qu'il veut, d'interagir avec qui il veut, quand il veut, sur les sujets qu'il veut, je pense qu'on ne peut pas faire plus optimal que ça, en fait, en termes de développement personnel.
Et donc là, tu rentres en France et tu choisis de créer l'école dynamique.
Voilà, je rentre en France et tout de suite après cette conférence, je me dis, ok, en fait, j'ai plus envie d'être dans l'éducation conventionnelle. L'éducation formelle, en fait, ça, j'y crois plus. Je vois plus l'intérêt et j'ai envie d'être là-dedans. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais promouvoir l'éducation démocratique? Et je me suis dit, oui, la priorité, bah, c'est de créer une école. En France, il n'existait qu'une école de ce réseau qui s'appelle EDEC.
Avant de me parler de la création de ton école, tu disais je croyais plus au système tel qu'il était, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as voulu en changer? Qu'est-ce qui ne te plaît plus? Qu'est-ce qui ne te plaisait plus?
C'est justement, enfin, y a quelque chose qui m'a servi de boussole, en fait, depuis pas mal de temps, enfin, même quand j'ai quitté le monde de l'entreprise à 26 ans. La quête que je poursuivais, c'était la quête du flow. Donc être dans cet état de fluidité maximale, en fait, où on est vraiment pleinement investi dans ce qu'on fait, et on fait ce qu'on fait par enthousiasme, et quelque part, même si on n'était pas payé, on le ferait quand même. Enfin voilà, j'étais vraiment dans cette optique de faire ce dans quoi je me sens bien. Et si on veut apporter ça aux enfants également, qu'ils soient dans cette fluidité, dans ce flow, qui a été théorisé d'ailleurs par un psychologue hongrois qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Je me disais qu'en segmentant le temps selon un emploi du temps, en segmentant les âges, voilà, en segmentant aussi méthodiquement même l'espace, enfin avec des salles de classe cubiques, voilà, c'est tellement de siloïsation et de segmentation du temps et de l'espace que pour moi, physiquement et temporellement, on est en train de couper cette fluidité, en fait. Les élans spontanés de chacun qui s'intègrent dans j'ai envie de dire, les interactions spontanées et organiques qui se passent, en fait, sont infiniment plus efficaces que ce processus un peu industriel de segmenter le temps et l'espace de cette manière. Et donc, soit ouais, c'est une réflexion assez profonde et fondamentale sur les dispositions de l'être humain pour apprendre, comment est-ce qu'il apprend le mieux? Bah, pour moi, c'est en étant dans cet état de flow, de fluidité maximale. Et comment être dans cet état de fluidité maximale? C'est clairement pas en décidant pour la personne ce qu'il va faire, à quel moment. C'est en lui mettant à disposition le vaste monde et toutes les ressources qui viennent avec, et en le laissant voilà, utiliser ses ressources humaines et matérielles comme il veut.
Ouais, c'est du bon sens en fait.
Ouais, j'ai envie de dire aussi. C'est se reconnecter à des choses assez simples, somme toute. Enfin, et en plus, avec des dispositions qui nous sont propres, qui sont naturelles, on a tendance à avoir cette énorme méfiance de la nature, comme quoi c'est propre à la vie sauvage, et que du coup, si on laisse juste les processus naturels opérer, ben on obtiendra des enfants qui grandissent sauvages, en fait, et qui ne savent pas s'intégrer au monde. Bah, de la société industrielle telle qu'on la connaît, qui n'est même plus vraiment une société industrielle, mais plutôt une société de la connaissance. Et dans cette société de la connaissance, ouais, je suis convaincu que c'est justement en interagissant avec la connaissance de manière libre qu'on arrive au maximum à s'intégrer à cette société. Donc c'est vraiment pas une sorte de vision un peu rousseauiste de couper les enfants de la société parce que la société serait corrompue et qu'elle est nulle et qu'il y a McDo et compagnie qui nous bouffent le cerveau et tout ça, c'est pas du tout ça en fait. Les enfants, ils devraient même interagir avec McDo et tout ce qui passe, et on devrait les laisser justement au maximum vivre leurs expériences avec le monde réel tel qu'il est, et c'est comme ça qu'ils apprendront à vivre dans ce monde et aussi à garder leur esprit critique, à le questionner, etc. Et c'est certainement pas en leur servant un programme pré-mâché qu'on arrivera à maintenir cette fraîcheur et cet esprit critique qui vient avec une expérience propre de chacun avec le monde. En fait, je trouve cette histoire frappante parce qu'elle montre, en fait, dans cette expérience de Sudbury Valley, voilà, il n'y a pas de pédagogie. C'est vraiment chacun vit sa vie. Et ça peut aller jusqu'au point de vivre une vie qui est intégralement dédiée à un et un seul sujet. Et pourquoi pas? Et je pense qu'on a besoin de personnes comme ça dans le monde aussi, qu'ils aient 10 ans ou qu'ils en aient 50. Il y a des gens qui sont hyper passionnés d'un truc, bah qu'ils le fassent, quoi. Et qu'ils le fassent à fond. Et ils vont sûrement contribuer à la société au sens large d'une manière exceptionnelle, quoi. Et moi, c'est un des aspects que j'adore dans cette école, c'est un peu l'école de toutes les excentricités, du coup, et qui se réunissent en un lieu et qui se parlent les uns les autres et du coup qui apprennent énormément les uns des autres. Un autre truc que j'ai trouvé génial dans cette expérience de Sudbury Valley, ce sont les enfants des fondateurs eux-mêmes. Les deux fondateurs, cofondateurs, sont Daniel et Hannah Greenberg, qui sont deux anciens professeurs de Columbia en physique et en chimie, donc des scientifiques, des académiciens, enfin qui sont allés jusqu'au plus haut niveau dans le domaine. Sachant en plus à une époque où les femmes comme Hannah Greenberg, bah, il y en avait quand on les comptait sur les 10 doigts de la main, enfin qui allaient jusqu'à devenir professeur universitaire en sciences, c'était très rare à son époque. Et bref, et leurs enfants, enfin, ne suivent pas du tout la trace de leurs parents, et c'est ça que je trouve génial aussi, enfin, que chaque enfant en fait s'accomplisse et s'épanouisse, selon ses capacités propres et sa personnalité unique, sans être quelque part formaté un peu par ses parents et qui voudrait qu'il fasse un peu comme eux. Et les trois sont devenus, le premier est devenu artiste, photographe et musicien, puis il a ouvert un restaurant à New York. La deuxième, elle est devenue psychothérapeute. Et le troisième, il a fait de la survie en forêt avec un mode de vie primitif pendant un an. Et ensuite, il est devenu fermier et il a fait toute sa vie comme fermier.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.